Bonjour, bienvenue à tous pour cette petite heure d'entretien avec M. Michaël Ourganlian, que l'on va essayer de présenter et de décrypter, je dirais, par une petite discussion autour du feu, et surtout autour d'un objet complètement hallucinant, vous en conviendrez. Quand on rentre dans la grande halle, donc juste derrière la scène, on découvre cet objet donc, présenté sous plexi par le musée Jules Verne de la ville de Nantes. Et donc, je vais demander à Michaël de nous en parler un petit peu. Donc, il s'agit de quoi, Michaël ?
Alors, il s'agit d'un coffret, d'un nécessaire de marine qui aurait pu appartenir au capitaine Nemo, qui aurait pu trouver sa place dans les salons du Nautilus. Et voilà.
Alors, donc cet objet, on parlera peut-être des dimensions pour ceux qui n'ont pas encore eu la chance de passer devant, mais je pense que si vous êtes assis là, c'est que vous êtes passé devant l'objet et que ça vous a quand même pas mal intrigué. Avant de parler de l'objet lui-même, est-ce que tu peux nous parler quand même de ton parcours ? Parce qu'en fait, donc, tu es le facteur de cet objet, entre autres, enfin, en tous les cas, celui qui a...
La cheville ouvrière, on va dire.
La cheville ouvrière, mais bon... Une sacrée cheville en tous les cas, si j'ai bien compris. Mais donc, est-ce que tu peux nous expliquer comment est-ce que, dans ta carrière et dans ton métier, comment c'est arrivé, entre guillemets, et donc ce parcours en fait, qui t'a amené à nous présenter cet objet aujourd'hui ?
Alors, je suis ébéniste de formation. J'ai commencé l'ébénisterie très, très tôt. J'avais tout juste 14 ans. Le système scolaire voulait plus de moi ou je voulais plus de lui. Vous faites comme vous voulez. J'ai vraiment décidé d'aller dans cette voie-là avec plein de choses dans la tête. J'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont emmené au musée très petit, d'avoir des parents qui ont aussi du beau mobilier. Enfin voilà, tout portait à ce que j'aille vers ces métiers-là. Et donc j'ai commencé l'ébénisterie à 14 ans. J'en ai fait un certain temps. J'ai continué après, j'ai repris des études pour faire des études de lutherie. Donc j'ai fabriqué des instruments à cordes, des violons, alto, violoncelle pendant quelques années. J'ai aussi une formation d'émailleur sur métal. Enfin, j'ai touché à beaucoup de choses. Ce qui m'a amené du coup à pas vouloir forcément me positionner sur de la fabrication de mobilier ou de la fabrication d'instruments. Voilà, essayer de faire quelque chose d'un peu transversal et donc à faire de la création d'objets en lien avec les métiers que j'ai pratiqués évidemment. Mais sans forcément me bloquer sur un thème particulier.
Et manifestement, donc, tes parents t'ont mis quelques ouvrages de Jules Verne dans les mains.
Alors, de fait, oui. Papa a une bibliothèque énorme dans laquelle il y a un certain nombre d'ouvrages de Jules Verne que j'ai lus petit, très petit, trop petit probablement pour le premier, qui était 5 semaines en ballon, qui est un très très bel ouvrage que j'ai dû lire à, je pense, j'avais 11 ans. J'ai rien compris, c'était beaucoup trop long. Et donc j'ai laissé Jules Verne de côté pendant un certain temps et puis je l'ai redécouvert plus tard et j'adore cet univers.
Alors c'est une rencontre entre tes amours de lecteur, je dirais, et ton métier, enfin, et ta passion pour la fabrication, et c'est aussi donc une rencontre avec l'univers de Jules Verne illustré par Didier Graffé. Donc.
Voilà, c'est
comment
ça.
S'est passée cette rencontre avec cet illustrateur assez connu, je dirais, en tous les cas, au Festival des Utopiales, et aujourd'hui quand même très connu. Alors, juste pour la petite anecdote, Didier n'est pas avec nous parce qu'il est en Angleterre pour recevoir le Fantasy Award. C'est la première fois qu'un illustrateur français va recevoir le Fantasy Award, donc il faut quand même le souligner. Alors, Didier, pour nous envoyer un petit mot, alors je vais me permettre de le lire avec les termes de Didier. Assez solennel, il faut l'avouer, mais donc, voilà, je vous le livre. Bonjour à tous. N'étant malheureusement pas parmi vous, aujourd'hui, les salons et autres conventions se cumulant en cette fin d'année, je veux néanmoins m'associer à cet événement et remercier la ville de Nantes et le musée Jules Verne pour l'intérêt porté au travail de Michaël Ourganlian. Alors vous leur ferez passer la commission. C'est une belle aventure qui continue ici, commencée il y a quelques années, lorsque Michaël m'a proposé de réaliser ce coffret ou nécessaire du capitaine Nemo, qui contient les objets du quotidien de ce grand aventurier de l'imaginaire. L'idée m'a tout de suite séduit, car elle intégrait le savoir-faire de plusieurs artisans et qui ont contribué à la réalisation de cet objet unique et magnifique. Michaël en parlera mieux que moi.
Je ne sais pas.
Donc là, il était logique que cet objet hors du commun rejoigne le musée Jules Verne et puisse, par sa présence, continuer à enrichir le patrimoine fabuleux laissé par cet écrivain voyageur. Merci à tous, Didier Graffé. Donc merci à Didier. Alors comment s'est passé? Donc c'est le livre, c'est quoi? L'illustration, les peintures?
Alors en fait, c'est une succession de rencontres, on va dire. D'abord une rencontre avec le travail de Didier, que j'apprécie énormément depuis des années. Je crois que j'ai à peu près tout de lui, tous ses ouvrages, tout ce qu'il a pu publier, il y en a beaucoup. Donc j'aime énormément son travail. Et puis à côté de ça, en fait, on a en commun un ami qui est galeriste à Paris, la galerie Daniel Maguen, qui est une galerie qui vend des originaux de bandes dessinées et d'illustrations. Et en fait, je discutais un jour avec Olivier, qui est son directeur. Et voilà, on échangeait sur nos métiers, sur la manière qu'on avait de concevoir les choses, etc. Et comme ça, à bâton rompu, je le dis dans la discussion, mais moi, j'aimerais vraiment beaucoup travailler avec des illustrateurs. Ils ont des univers fantastiques que moi, j'ai la chance de pouvoir concrétiser. Et il me dit, mais attends, on a une exposition Didier Graffet dans 2 ans. Là, je viens d'avoir son accord. Si tu veux, on l'appelle et puis on voit si c'est possible. Alors, moi, j'étais un peu... voilà, il m'a dit, je l'appelle. Là. On est en train de discuter. Je prends mon téléphone, je l'appelle. Moi, j'étais un peu impressionné parce que, voilà, vraiment, je connaissais le travail de Didier et j'étais très, très fan de son travail. Et donc, on a passé, je crois, 1h30 ou 2 heures au téléphone avec Didier, qui a effectivement tout de suite embrayé. Et son univers s'est mis en marche. Et donc... voilà, dans les 2 heures, on a jeté toutes les premières idées qui allaient 2 ans plus tard devenir ce coffret.
Et donc l'illustration est née de cet appel téléphonique, en fait. L'illustration qui a donné ensuite, je dirais officiellement, naissance au coffret.
Alors en fait, il y a effectivement une illustration...
que l'on peut voir sur le stand.
Qu'on peut voir, voilà, sur le stand qui a été faite par Didier. Cette illustration, elle a été faite, je pense, à peu près 6 mois après notre premier coup de téléphone. Donc les bases étaient déjà mises en place. On avait déjà, voilà, il avait déjà fait des croquis du coffret. On savait déjà à peu près ce qu'on voulait mettre dedans. Et donc, il a voulu le mettre en situation pour que vraiment on puisse complètement mesurer l'ensemble du travail et de ce qu'il allait y avoir dessus. Et donc, ça s'est fait, voilà, 6 mois après. Et donc, si vous regardez sur la peinture, il y a un certain nombre de petites choses qui ont évolué entre les deux, puisque ben voilà, il a fallu encore 1 an et demi pour que ça se concrétise vraiment. Et donc entre les deux, ben forcément, il y a eu quelques petits ajustements, quelques petites...
Alors quand on voit l'objet, on va passer quelques photos et tu vas nous les commenter. Quand on voit l'objet, disons, en détail, on s'aperçoit qu'effectivement, il y a quand même énormément de matériaux différents, du laiton, des essences exotiques en termes de bois et autres. Alors déjà, donc, il y a eu énormément d'artisans qui ont travaillé quand même sur cet objet, sous tes directives, je dirais. Est-ce que tu peux nous les citer? Est-ce que j'ai entendu parler donc d'artisans, disons, originaires de 4 pays différents? Donc ça veut dire quand même penser au-delà, je dirais, de ton atelier et au-delà de ton métier habituel, en fait. Alors comment ça se met en place? Et en même temps, si tu peux nous en parler, en même temps que l'on fera défiler des objets, puis s'il y a des commentaires particuliers sur certains objets, tu nous les livres.
Alors, en fait, Didier comme moi, on voulait vraiment que tous les objets qui sont dans le coffret soient fonctionnels d'abord. Ils fonctionnent tous, vraiment. On peut les utiliser, voilà, de l'astrolabe à la pipe en écume. On peut tous les utiliser. C'était vraiment notre premier souhait. Et puis le deuxième souhait, c'était vraiment de faire travailler des artisans. On aurait pu tout à fait aller chez des antiquaires ou autres trouver ces objets, parce que la plupart, on aurait pu les trouver. Mais on voulait vraiment que ce soit fait par des artisans d'aujourd'hui pour que ce soit un coffret voilà, le plus personnalisé possible et le plus contemporain, malgré son esthétique un peu plus ancienne.
Alors, du coup, les différents artisans et les pays en question, donc, qu'est-ce qui a, disons, suscité le fait d'aller chercher un artisan vraiment?
La plupart du temps, quand on a été à l'étranger, c'est qu'on ne trouvait pas en France, tout simplement. Il y a des métiers qui ont disparu pour différentes raisons du patrimoine français. Et du coup, on a été obligé d'aller les chercher à l'extérieur. ce qui a pu susciter pas mal de temps de travail, de recherche, parce que voilà, la pipe, par exemple, vient de Turquie, en passant par les États-Unis, ça a été un petit peu compliqué. Mais en France, il n'y en a plus. Il n'y a plus de fabricants de pipes en écume de mer. Alors, juste donc l'image que vous avez devant vous, c'est de la porcelaine de Limoges qui a été peinte par Didier. Pour l'anecdote, il ne voulait pas le faire. La peinture sur porcelaine, c'est quelque chose de très, très spécifique. Et en fait, moi, je lui ai dit, mais si, je suis sûr que tu peux y arriver. Il n'y a pas de raison. Tu fais des choses extraordinaires. Et il ne voulait vraiment pas. Et en fait, je lui ai acheté de la peinture. Je lui ai envoyé par la poste et je lui ai dit, bah maintenant, voilà, elle est là, donc t'essayes. Si tu n'y arrives pas, tu n'y arrives pas, et je comprendrai bien, mais t'essayes. De fait, voilà, je crois que ce qu'il a fait est à la fois très sobre et à la fois très représentatif de ce qu'il aurait pu y avoir dans un coffret réel. Donc vraiment, il a très très bien réussi le challenge. Ici, on a découvert en argent, qui sont également fabriqués en France, qui ont été gravés. On ne voit pas très bien sur la photo, sur le deuxième couvert, on voit il y a le N de Nemo. En fait, tous les objets en argent ont été gravés au chiffre du capitaine, voire même à sa devise, pour personnaliser au plus l'œuvre.
Tu nous parlais de la pipe, donc...
Alors ça, en fait, c'est une autre pipe. Ouais. On en a fait deux. On en a fait deux parce que, en fait, comme je disais tout à l'heure, on n'a pas réussi à trouver d'artisans français pour fabriquer cette pipe. Et même, je ne trouvais pas d'artisans tout court pour fabriquer une pipe en écume de mer. En fait, il faut savoir que l'écume de mer, c'est un matériau très, très particulier. C'est un calcaire qui ne se trouve que dans les sous-sols de la Turquie. Et en fait, la Turquie, pour des raisons économiques évidentes, a bloqué totalement depuis une dizaine d'années l'exportation de blocs d'écume de mer. Et donc, les pipiers ne peuvent plus fabriquer de pipes en écume de mer. Donc il n'y a plus, à ma connaissance, ou quasiment plus, d'artisans fabricants d'écume de mer en dehors de la Turquie. Et donc, on avait commencé par faire cette pipe en Bruyère, qui a été fabriquée par un artisan français, un meilleur ouvrier de France, à Saint-Claude, qui est la capitale mondiale de la pipe, dans le Jura. Et donc, voilà, par un deuxième temps, par différents contacts, j'ai réussi à rencontrer un pipier turc qui m'a permis, du coup, de fabriquer la pipe en écume de mer qui est, elle, dans le coffret.
Alors, petite curiosité, du coup, tu sollicites donc des artisans, je dirais, de très haut niveau. C'est un projet qui émane de vous deux. Qui n'est pas une commande. Et donc l'artisan, à ce moment-là, il réagit comment quand on lui dit je vous commande une pipe en écume de mer et je vous la paye directement, ou est-ce que vous participez à un ouvrage collectif qui trouvera preneur?
Ouais, non, en croisant les doigts. C'est, voilà, en croisant les doigts, c'est ça. Non, là j'ai mis la main à la poche de manière assez conséquente au départ. Parce que tous les objets ont été payés au départ par moi.
D'accord.
Pour rentrer dans le coffret. Voilà, peut-être que certains artisans auraient bien voulu, mais d'autres ne souhaitaient pas faire leur travail en espérant qu'un jour ce soit vendu. Qui plus est, à l'époque, on ne savait pas du tout que ce serait acheté par le musée de Nantes. Et du coup, ça aurait pu terminer chez un particulier ou n'importe quel autre endroit.
Et alors, tu nous as expliqué donc, que tu viens du bois. Il y a beaucoup de matériaux donc dans ce coffret. Donc, je dirais naïvement, on peut imaginer que les parties en bois que l'on voit, c'est donc de ta main.
Oui, absolument. Oui. C'est voilà, grosso modo, ce qu'on voit là, à part la peinture et puis les coquilles et la platine sur le dessus, c'est mon travail. Donc, on peut voir toutes les parties en métal, c'est du laiton. Toutes les parties en bois rouge, c'est de l'acajou et l'acajou du Honduras. Et les parties en bois noir, c'est des parties en poirier, en ébène teinté.
Alors là, tu composes, donc tu fabriques les pièces en question et tu les envoies chez un autre artisan pour qu'il continue le travail.
En fait,
comment se passe l'assemblage à ce moment-là?
Une des grosses parties du travail, ça a été de récupérer toutes les pièces qui ont été faites chez les artisans, dans le bon ordre, dans le bon timing, parce que certains étaient en retard. Du coup, ça, il y avait une date butoir pour l'exposition, donc il fallait vraiment que les choses soient bien mises en place. Donc il y a un gros travail de coordination en plus du travail manuel pour réussir à faire en sorte que tout le monde arrive à temps. Et donc je recevais tous les objets et je les mettais au fur et à mesure dans le coffret. Et en fait, j'ai pu commencer le coffret 4 mois avant l'échéance parce que je ne recevais pas tous les objets dans les temps, en fait. Donc les 4 mois, ça a été très très serré, en fait.
Et alors, par exemple, ce sablier, l'histoire de ce sablier, c'est quoi ?
Alors, c'est un sablier qui a été fabriqué par un fabricant d'objets de marine français. En fait, on pensait avec Didier que c'était intéressant d'avoir ce genre d'objets qui sont, on va dire, typiques de l'imaginaire maritime, même s'il n'y a absolument pas de description de sablier ou de quoi que ce soit de cette...
Mais alors, par exemple, je dirais bêtement, on en trouve quand même des sabliers chez...
Alors, des sabliers comme ça, bon courage.
D'accord.
Voilà, des donc sabliers là... en laiton massif avec du verre, etc. Voilà, de cette qualité-là. On en trouve un certain nombre chez les antiquaires. Maintenant, chez des vendeurs contemporains, à ma connaissance, non.
Par curiosité, du coup, il mesure combien de...
C'est quoi les dimensions ? Il fait une dizaine de centimètres.
Et alors tu parlais des plans de création. Donc on sait que Didier, lorsqu'il avait fait les ouvrages, donc 20 milieux sous les mers, donc et l'île mystérieuse, sur 20 milieux sous les mers, il s'amusait à reconstituer les plans du Nautilus à partir des descriptions de Jules Verne. Il a même fait une magnifique maquette qui est, je crois, encore, qui est aussi au musée Jules Verne. Hein,
elle est chez lui.
D'accord. Bon, bah alors c'est un appel du pied au musée Jules Verne. et je sais qu'il m'avait dit à l'époque que quand il a reconstitué les plans, en fait, il avait été confronté au fait que Jules Verne, en fait, s'était trompé dans les descriptions, en fait, qu'il y avait des contradictions entre les différentes descriptions des différentes pièces. Alors bon, on veut bien le comprendre. Est-ce que par rapport aux objets décrits, est-ce qu'il y a eu une intervention de Didier ou même de toi en disant, mais non, cet objet décrit dans l'ouvrage ne tient pas debout, on va être obligé de le modifier ou de le présenter différemment ou de le modifier, quoi.
Alors, il n'y a pas eu de, ou très peu en tout cas, de recherche vraiment de coller à l'histoire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de, il y a très peu de descriptions d'objets dans 20 milieux sous les mers ou dans l'île mystérieuse. Il n'y a pas de, du coup, il fallait qu'on trouve nous-mêmes ce qu'on allait mettre dedans. Pour tout dire, même le capitaine Nemo fumait le cigare, des cigares fabriqués avec des algues. Donc on n'a absolument pas de trace du fait qu'il ait pu fumer la pipe à aucun moment. Donc voilà, c'est vraiment notre imaginaire qui a mis qu'on a mis au service de Jules Verne, mais il n'y a pas de vérité historique ou en tout cas littéraire sur le sujet. On sait par exemple que Jules Verne, il y a deux choses. On voit sur une des illustrations originales un sextant qu'on n'a pas mis parce que ça ne nous semblait pas opportun dans le coffret. Et puis, il parle dans le roman d'une boussole, sachant que c'est une autre petite erreur de Jules Verne, qui était pourtant très érudit. En fait, une boussole dans un sous-marin, c'est... Ça marche pas, c'est pas possible. Un sous-marin étant tout en métal, la boussole, voilà, ne peut pas fonctionner. Mais pour le coup, on en a mis une parce que voilà, l'objet nous semblait représentatif de l'univers marin, de l'univers vernien. Une belle boussole en laiton. Qui...
Alors, dans le coffret, donc, on trouve des cartes aussi, des cartes dessinées qui ne sont pas présentées là telles qu'il est exposé ici. Mais donc, il y a des cartes dessinées par Didier Graffé d'après les descriptions donc, de Jules Verne. Si j'ai bien compris aussi, il y a donc un astrolabe avec la position de l'île mystérieuse. Donc, tout ça, c'est une invitation au voyage, en fait, pour celui aussi qui voudrait, qui aurait pu, entre guillemets, manipuler ce coffret, le découvrir, le déplier. Est-ce qu'il pourrait y avoir, par exemple, des parties du coffret qui seraient... Allez, rêvons un peu, fabriquer en série pour le public, quoi, je dirais, parce que un jeu de cartes dessiné par Graffé, puis un astrolabe avec des fausses coordonnées, ce serait quand même assez amusant
existe.
Pour les amateurs de steampunk et autres, par exemple.
Le jeu de cartes existe. En fait, c'est une carte du voyage du Nautilus, Donc une carte du monde avec le tracé du voyage. Et puis la deuxième carte, c'est un plan du Nautilus, en fait. Ces deux dessins existent dans le commerce, déjà en série, si vous voulez les acheter, sur le site de Didier, je crois. Il en parlerait mieux que moi. Maintenant, pour le reste, bien sûr, oui, tout est possible. Maintenant, est-ce que un astrolabe indiquant la latitude de l'île mystérieuse intéresserait beaucoup de gens ? Je ne suis pas sûr. Surtout que donc, c'est l'île mystérieuse située dans l'hémisphère sud. Donc l'astrolabe n'est absolument pas utilisable en Europe. Du coup, je ne sais pas si on trouverait vraiment un public.
Je suis sûr que oui. Mais... Donc la montre, par exemple, là, fonctionne.
La montre à gousset fonctionne, oui. Elle vient d'une entreprise du Doubs. Elle fonctionne parfaitement. Quoi, elle est à remontage. Non, c'est pas une montre suisse. C'est une montre française. Et donc, pour la petite histoire, on voit sur le bas du gousset, on voit une photo représentant donc le capitaine Nemo et sa famille. Et en fait, c'est Didier et sa famille qui se sont mis en scène sur cette photo. Donc voilà, on le voit avec son turban, etc. Je crois qu'il s'est beaucoup amusé à faire cette photo.
J'imagine.
Voilà donc l'Astrolabe, qui est donc complètement utilisable. Alors la dame qui l'a fabriqué, la dernière fabricante d'Astrolabe d'Europe, elle vit en France, à Paris, et elle m'a fourni un manuel avec, parce que c'est très compliqué à utiliser, et un manuel qui fait une cinquantaine de pages. Pour comprendre comment ça fonctionne, c'est pas simple, manifestement. À l'époque, ils utilisaient tous ça. Enfin, on commençait déjà à plus l'utiliser, en fait. On était déjà passé au sextant, qui est une amélioration. Mais voilà, il est vraiment fonctionnel.
Quand je t'écoute raconter un petit peu l'historique des objets, la pertinence des artisans qui ont travaillé quand même pour ça, et puis leur qualification... Là, bon, il y a beaucoup d'amateurs entre les cosplays, les objets liés au steampunk, par exemple, par rapport à la science-fiction et autres. On en trouve quand même dans pas mal de festivals depuis quelques années. Là, je sais qu'il y en a beaucoup qui se promènent dans les allées de la cité aujourd'hui. Tu as conscience quand même que là, en termes de facture d'objets cuivre, par exemple, tu es en train de mettre la barre vraiment très haute. Et je pense que... Il y en a quelques-uns qui vont peut-être annuler leur participation au cosplay parce qu'ils vont,
voir tes objets. Non. J'espère que non. Ben, on n'est pas dans le même univers, j'ai envie de dire, même si les univers se rejoignent évidemment. Mais voilà, là on est dans un univers d'artisans, de gens dont c'est le travail, qui vont mettre toute leur qualification, toute leur passion, tout leur amour de leur métier dans ce qu'ils font. Et c'est des années et des années de travail pour arriver à un résultat pareil, tous les jours, 10 heures par jour. Donc évidemment, c'est une qualité de facture qui est différente, même si on voit de temps en temps dans le cosplay ou des choses vraiment remarquables. Moi, je suis impressionné parfois par ce que sont capables de faire de modestes amateurs dans leur garage. C'est assez impressionnant. Mais c'est sûr que oui, on n'est pas dans le même degré, mais les deux sont tout à fait complémentaires et intéressants.
Donc là, il s'agit de la carte en question qui est pliée donc dans
la fameuse carte avec le voyage. En fait, on voit pas très très bien, mais tous les pointillés, en fait, c'est tout le voyage de Nemo tout au long de la vie du Nautilus, en fait.
Et alors, est-ce que la carte est... Juste pour l'anecdote, le papier, par exemple, il a une provenance particulière, il a une date particulière.
Le papier n'a pas de provenance particulière, enfin, il provient de l'atelier de Didier, après, je ne sais pas d'où il vient. Par contre, je sais qu'il a passé beaucoup, beaucoup de temps à essayer de vieillir la carte, en fait, à faire en sorte que ça ne fasse pas tout neuf, parce que ça sort au départ de quelque chose de tout, un papier tout blanc. Je crois qu'il l'a passé dans le thé, enfin, il a fait tout un mélange pour réussir à donner ce côté un peu vieilli. Je crois qu'il a même mis de la terre dessus. Enfin,
donc là, sur les flancs du coffre, on a donc des illustrations de Didier. Oui. Est-ce qu'il les a repris, par exemple, en partie des images qu'il avait fait sur les deux livres donc édités chez Grund, je crois qu'ils sont épuisés
depuis quelques années déjà.
Il s'est inspiré de ce qu'il avait fait. Est-ce qu'il a eu envie de remanier, de travailler sur des, par exemple donc les les méduses en question, par exemple, est-ce qu'elles ressemblent à celles qu'il avait déjà fait ou est-ce qu'il a, il a souhaité mettre...
Alors les méduses oui, de fait elles ressemblent parce qu'il y en a à tous les coins de page ou presque de son livre. Donc elles ressemblent avec la qualité du travail d'aujourd'hui. Quand on était à l'exposition, il y avait donc ces dessins-là et puis les dessins qu'il avait fait pour 20 milieux sous les mers à l'époque. C'était magnifique à l'époque, c'est exceptionnel aujourd'hui, même sur des tout petits dessins comme ça. Le dessin de face, c'est vraiment, je crois, une création. Enfin, il est parti sur une vue d'un navire, vue du Nautilus, et je ne crois pas du tout qu'il soit inspiré de quelque chose qu'il avait déjà fait. Non.
D'accord. Donc voici la fameuse pipe des sous-sols de le Turc.
Voilà, la pipe en écume de mer. Donc l'écume de mer, c'est un calcaire. En fait, c'est le matériau idéal pour la pipe, puisque en fait, il faut pas oublier que dans la pipe, il y a du feu, il y a des braises, et du coup, tous les matériaux ne conviennent pas. La bruyère aussi qu'on voyait tout à l'heure, c'est un matériau très très intéressant pour ça. En fait, ce qui est intéressant avec l'écume, c'est que c'est un matériau qui se polit, qui se patine, et qui donne, plus c'est vieux et plus c'est beau en fait. Vraiment, ça donne des couleurs orange, presque rouge, brune, enfin, c'est très très intéressant, dû à la main du fumeur évidemment, mais aussi à la fumée et tout ce qui passe à l'intérieur. Le deuxième intérêt, c'est que comme c'est un calcaire, ça aspire beaucoup de particules, et en fait ça aspire toutes les mauvaises particules du tabac, et du coup le tabac est beaucoup moins nocif, on va dire, même si ça le reste, dans une pipe en écume. Donc il y a des milliers et des milliers de pipes qui ont été faites au 18e, 19e et début 20e siècle en écume.
Donc là, c'était vraiment un intérêt d'une recherche de travailler dans un matériau d'époque, en fait, utilisé
d'époque, à l'époque. Oui. Alors il y a l'esthétique du matériau, parce que c'est un matériau qui est très beau, poli comme ça, c'est superbe. Ça ressemble à l'ivoire, enfin, c'est vraiment très beau. Et puis aussi, effectivement, une recherche de coller au plus près à ce qui aurait pu à l'époque.
Et par exemple là c'est d'après des croquis j'imagine de Didier.
Voilà.
Il a envoyé juste un portrait ou est-ce qu'il a vraiment dessiné la pipe complète?
Alors c'est pareil, c'est une petite anecdote amusante qui montre bien la capacité de travail et d'imaginaire de Didier. En fait je l'appelle un jour en lui disant que ça me paraissait intéressant de mettre une pipe dans le nécessaire, et voilà, on en parle 10 minutes au téléphone, et je pense une heure et demie après, je reçois un mail dans ma boîte avec des croquis complets à l'échelle de la pipe. Et elle a été réalisée par rapport à ces croquis qu'il a mis une heure à faire. Voilà, c'est 5 minutes de discussion, une heure, et, et il sort ça. Impressionnant.
Performance. Alors là, par exemple, donc la montre à gousset de tout à l'heure, donc. Donc voilà, l'illustration de face originale par...
Voilà, c'est ça, par Didier. Donc, c'est vraiment... Voilà, on est dans le Nautilus et on voit un navire qui finira peut-être pas très bien du hublot central. Donc, il y a vraiment tout l'univers de Didier, là. À la fois le côté un peu steampunk, tous les engrenages, etc. L'iris qui s'ouvre... et puis une qualité de travail vraiment toujours extraordinaire.
Et là, est-ce qu'il a travaillé, par exemple, à l'huile ou à l'acrylique?
Alors, c'est de l'acrylique. Didier, jusqu'à il y a très peu de temps, Didier n'a, à ma connaissance, travaillé qu'à l'acrylique et au numérique également. Depuis l'exposition, donc depuis le mois de décembre dernier, je crois qu'il se met à l'huile.
D'accord.
Avec des contraintes très spécifiques à ce médium.
Est-ce qu'il a, il y a un autre projet d'exposition, j'imagine?
Oui, dans
la même galerie,
dans maintenant succès, un an, je crois. Oui.
Vu le succès précédent.
Voilà, donc on devrait, je pense, voir pas mal plus d'huile à cette nouvelle expo.
Et est-ce que, par exemple, il peut être envisagé d'avoir un ouvrage avec les croquis liés au coffre, par exemple un petit, je dirais, le nécessaire de voyage du. du lecteur. Ça, lui est frustré parce qu'il ne verra les images, par exemple, s'il habite pas Nantes, il ne les verra que sur le net, par exemple, et même voir les photos, c'est pas voir l'objet. Donc,
Ça c'est sûr. Oui.
Ça pourrait être intéressant d'avoir une petite publication liée à l'objet, quand même. Quoi.
Ça pourrait,
avec
quelques
anecdotes, quelques.
Tout à fait. Peut-être.
Donc là, pareil, un compas, donc fabriqué, tout est fabriqué sur mesure.
Alors le compas n'a pas été fabriqué sur mesure, parce que c'est un compas très classique, mais ça fait partie des objets qui ont été... C'est fabriqué par un artisan français, mais là, pour le coup, si vous cherchez, vous trouverez le même dans le commerce.
Et alors, quand tu passes 2 ans à travailler sur ce projet avec Didier, il y a l'exposition, il y a... Alors, tu vas peut-être nous raconter comment c'est fait, comment le coffre est passé de la galerie parisienne au musée Jules Verne à Nantes. Et ensuite, j'ai envie de te demander, donc, et ensuite ?
Alors, et ensuite ? Donc déjà pour le fait que le musée était acheté par le coffret était acheté par le musée, en fait, c'est grâce à Didier qui connaissait le musée. Je pense par les Utopiales, il faudrait leur demander, mais ça ne m'étonnerait pas, qui a déjà travaillé avec eux, etc. Et donc, c'est lui qui nous a mis en lien, en fait. Et le musée a décidé de faire cet achat.
C'est pas le premier objet qui se retrouve, en fait, au musée de la part de Didier, parce qu'en fait, pour la petite anecdote historique, en 2005, avec l'association dont Didier faisait partie, en fait, on avait réalisé une fresque qui est dans l'escalier du musée, en fait.
Oui, absolument.
Et le visage de Verne avait été réalisé par Hubert Delartigue, et si mes souvenirs sont bons, la partie de droite a été réalisée par Didier, donc avec le Nautilus émergent.
Ils étaient, je crois, six illustrateurs qui ont peint pendant les Utopiales.
Patrick Woodroff, Sandrine Gestin,
c'est ça,
Hubert Delartigue, Manchu et Didier. Ouais.
Voilà. Ouais, tout à fait. Des grands artistes.
Donc un objet de plus au musée.
Voilà.
Et est-ce que les artisans qui ont participé à l'objet ont ensuite voulu avoir un suivi, avoir les photos de l'objet fini, avoir...
Alors moi j'ai tenu à leur faire part...
Pourquoi pas être invité au musée, je ne sais pas.
Moi j'ai tenu à leur faire part de ce que les objets devenaient. Après j'ai eu des réactions très diverses. Il y en a qui n'ont même pas vraiment manifesté quoi que ce soit. Il y en a d'autres avec qui je vais retravailler par la suite. Le ciselier, par exemple, qui a fait la paire de ciseaux qui est à l'intérieur. On envisage d'autres collaborations. Qui est vraiment
par la suite, ça répond à ma question. Donc, et ensuite.
Voilà.
Donc, est-ce que cette irruption de l'artisanat d'art dans la fiction, ça t'amène sur des chemins de traverse plus proches de la fiction, plus peut-être des collaborations. Peut-être qu'il n'y a pas un artiste qui t'a contacté du coup en disant ouais, mais j'aimerais bien pouvoir réaliser, faire réaliser en tous les cas quelque chose qui corresponde à ça.
Alors il y a plusieurs artistes en fait qui m'ont contacté après parce que moi je suis pas artiste, mais je comprends tout à fait qu'un illustrateur ou un dessinateur de bande dessinée soit un peu frustré d'avoir dans sa tête un imaginaire qui est en général absolument extraordinaire et de ne pas pouvoir le concrétiser vraiment. Il le concrétise sur le papier, mais ça reste quelque chose de plat en 2 dimensions. C'est vrai que de pouvoir avoir l'opportunité de faire ça en 3 dimensions, ça apporte un plus. Du coup, effectivement, il y a plusieurs illustrateurs qui m'ont contacté et il est probable qu'il y ait un ou deux projets qui se concrétisent dans les années qui viennent.
Alors j'imagine que c'est des illustrateurs qui travaillent un petit peu dans le même type d'univers.
Pas du tout.
Donc tu risques de travailler
complètement différentes.
Sur des bois précieux extraterrestres pour faire des vaisseaux spatiaux en ronces de...
Non. Là il y en a 2 qui me viennent particulièrement. C'est 2 univers encore complètement différents. Un plus lié à l'enfance, l'autre plus adulte. Non, c'est vraiment des choses très très diverses qui n'ont absolument rien à voir ni avec Jules Verne, ni avec cette époque, ni avec quoi que ce soit, ni même les techniques de dessin, d'illustration de Didier. C'est vraiment complètement différent.
Donc là, c'est quand même parti pour ouvrir un nouveau parcours dans ta carrière, quoi.
J'aimerais bien. Je peux pas faire que ça parce que c'est un temps de travail énorme, un investissement très important, ne serait-ce que financier, quand il faut acheter tous les objets à l'avance. Mais voilà, de temps en temps, ça sera avec grand plaisir.
Je vais passer un petit peu quelques détails. Là, c'est l'artisan donc qui s'est soucié de faire parvenir le matériau, ou est-ce que c'est toi qui as suivi l'exportation ?
Alors non, je pense que c'est lui qui est allé déterrer lui-même, parce que c'est comme ça que ça se passe là-bas. C'est l'artisan turc qui a pris sa pelle et qui est allé chercher son bout d'écume.
Ah oui. Oh.
Peut-être pas dans son jardin, mais pas très loin. Et donc qui après l'a sculpté.
On est passé quelques instants sur les ciseaux oui. En forme de kraken.
Oui. Alors ça, pour le coup, c'est pas un dessin de Didier. En fait, Didier voulait pas. C'est pas qu'il voulait pas s'impliquer dessus, hein. parce qu'il s'est beaucoup impliqué dans le projet, mais c'est qu'il voulait vraiment que chaque artisan puisse apporter son univers, sa propre touche, quand l'artisan le souhaitait évidemment. Et en l'occurrence, le ciselier, ça lui a pas fait peur du tout quand je lui ai parlé du projet, qu'on a décrit un peu l'univers, que je lui ai montré les croquis qu'on avait déjà fait. Il m'a dit oui, pas de problème, je vous fais deux projets. Donc il avait fait un projet d'hippocampe qui était très chouette aussi, et puis un projet de poulpe géant. Et voilà, Didier a flashé sur le poulpe, donc on a décidé de faire le poulpe. Mais c'est vraiment là pour le coup de A à Z la fabrication du ciselier.
Là, un ciselier français.
Ciselier français, dernier ciselier de France, dont c'est même pas le métier principal. Il fait ça en plus de son travail. Il est coutelier à côté. Ça fait partie de ces métiers qui sont en train de disparaître et qu'il faut vraiment remettre en avant parce que voilà, on arrive à faire des choses absolument magnifiques avec très peu de choses. Alors de fait, du coup, on a presque un peu peur de les utiliser, ces objets, mais en fait c'est complètement fonctionnel, c'est de l'acier, donc il n'y a absolument aucune raison de l'abîmer ou de faire quoi que ce soit avec, comme avec une paire de ciseaux de cuisine de base. Et pour tout dire, moi je lui en ai refait faire pour moi après, parce que je suis tombé complètement fan de son travail.
D'accord, donc tu as un service à base de kraken.
Alors non, j'ai fait faire d'autres choses.
Donc le coffre, en fait, est visible au musée, Jules Verne.
Le coffre sera visible au musée. C'est la première présentation au public aux Utopiales. Je ne crois pas qu'il ait été présenté à un quelconque autre moment. Et après, il sera présenté, je pense, pendant des expositions temporaires. Le musée Jules Verne est très concentré. Et du coup voilà, je ne pense pas qu'il soit présenté de
on
manière
permanente.
On peut
avoir permanente. Des détails là-dessus. Et il sera présenté sur une expo permanente, peut-être, quand même. Oui. Temporaire. D'accord. Ah. Oui, le
musée est tout petit.
Vu l'endroit où est situé le musée, effectivement.
Très chouette, c'est un musée, si vous n'avez pas été le voir, qu'il faut vraiment aller voir. Très intéressant. Et comme il est tout petit, en fait, on n'y passe pas beaucoup de temps, mais on apprend plein de choses. Enfin, en tout cas, moi, je l'ai découvert à ce moment-là et j'ai vraiment beaucoup apprécié.
Alors, profitez bien du coup des Utopiales pour pouvoir... regarder le coffret en détail. Est-ce qu'il y a des questions, par exemple ? Est-ce que ça a suscité un petit peu de curiosité ? Parce que c'est vrai que c'est quand même un objet juste incroyable, quand même.
Alors comment on trouve un artisan turc ? Alors, je l'ai trouvé par quelqu'un qui tient un forum. On fait des forums sur absolument tout aujourd'hui sur internet, et donc c'est un forum de pipes. En fait, c'est quelqu'un qui est passionné de pipes, qui en a fabriqué, je crois même lui-même, dont c'est pas du tout le métier, hein, il est comédien de théâtre, et donc qui m'avait orienté vers un certain nombre d'artisans ou un certain nombre d'importateurs. Et donc dans ces importateurs, il y avait un Américain qui lui-même faisait travailler un Turc. Et donc c'est via cet importateur américain que j'ai pu travailler avec cet ouvrier turc. Donc voilà, la pipe a fait le tour du monde avant d'arriver à la maison. Alors je ne fume pas la pipe moi-même, mais c'est un artisan qui est très connu internationalement et qui en fait des fonctionnels tous les jours. Donc n'y a aucune raison que celle-là ne fonctionne pas, puisque, encore une fois, tous les objets sont fonctionnels dans le coffret. En tout cas, l'air passe, en tout cas, ça c'est sûr.
Et tu parlais des cigares à base d'algues, il n'y en a pas dans le coffret ?
Alors non, il n'y en a pas.
Parce que dans le festival, je suis sûr qu'il y en aurait plein qui auraient voulu les tester.
Oui, ça, j'imagine. Je ne sais pas s'il y a des fabricants de cigares en algues, j'avoue. Peut-être.
Il faut lancer un nouveau truc. Cigare écolo. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions ? Ah, alors là, ça va être la question qui tue, parce que le monsieur a demandé quelle était la valeur estimée du global.
Alors, c'est pas forcément à moi de le dire, le musée l'ayant acheté, vous poserez les questions au musée. Maintenant, c'est sûr que entre le travail des artisans, de chacun des artisans qui a fait chacun des objets, et puis le mien, le travail de Didier,
On est d'accord que le prix estimé, à mon sens, est plus élevé que le don au musée. Mais parce qu'en fait, non, c'est sur l'accumulation, il y a une espèce de valeur ajoutée à l'ensemble où on s'aperçoit là que la somme des parties est quand même le tout est bien plus importante que la somme des parties.
En fait, je pense que ce qui est assez exceptionnel dans ce coffret, c'est de réussir à trouver dans un même objet autant de corps de métier et autant d'excellence, je pense qu'on peut le dire, de certains artisans. Je pense que c'est ça en fait qui est très très rare. On trouve ça en architecture en fait, hein, quand on fait faire des grands palais, des choses comme ça, on a des corps de métier extraordinaires qui travaillent les uns à côté des autres pour faire une œuvre. Et c'est peut-être ça en fait qui est le plus important dans ce coffret et qui lui donne toute cette valeur qui est du coup pas vraiment estimable. Enfin,
c'est pour ça que effectivement, c'est pour ça que quand le monsieur demande la valeur estimée, c'est vrai que. C'est juste. Enfin, moi, je trouve que c'est vraiment un objet hallucinant, vraiment complètement hallucinant. On a envie d'enlever le couvercle, de pouvoir manipuler un petit peu les tiroirs, de voir délicatement comment ça peut interagir.
À l'exposition,
une mécanique terrible derrière.
L'exposition à la galerie, il n'y avait pas de couvercle, il n'y avait pas de plexi, et il y a beaucoup de gens qui ont voulu le manipuler parce que c'est vrai que voilà, ça donne envie d'ouvrir, de voir ce qu'il y a dedans. Là, il est présenté vraiment dans sa globalité, on voit vraiment chacun des objets, chacun des tiroirs est ouvert, etc. À la galerie, c'était pas le cas parce que la galerie est toute petite. Et du coup, voilà, les gens. J'ai passé la soirée de l'inauguration à ouvrir et fermer les tiroirs pour sortir chacun des objets.
Est-ce qu'il y aurait d'autres questions ? Ouais. Une petite remarque. Je pensais qu'en science-fiction et dans les littératures de l'imaginaire, puisque ça fait quelques années, par exemple, qu'on voit des manifestations comme les Utopiales, où on réunit un petit peu les acteurs de l'imaginaire autour de leur passion, différents acteurs qui viennent de différents modes d'expression, que ce soit la bande dessinée, les arts graphiques, les sculpteurs, les écrivains et autres. Je dirais les goodies aussi, par exemple, aujourd'hui, en termes d'objets. Et là, je suis ravi de voir une nouvelle inspiration, en fait, dans ce même univers, se dire que non, c'est pas un univers aussi fermé qu'on le pensait, même si on parle d'imagination et autres. Moi, j'avais l'impression d'avoir, fait le tour des expositions possibles, en fait, autour de l'imaginaire et de la science-fiction. Et là, je suis ravi de voir que ça a pu susciter un intérêt comme ça dans un corps de profession, disons, qui était peu ou pas concerné en tous les cas jusqu'à présent. Et j'espère que ça va peut-être faire des émules et que l'on va trouver au gré des créations des illustrateurs ou des écrivains un corps de métier, disons, d'excellence qui pourrait s'emparer de ça pour justement donner vie à ces objets.
Les artisans d'art ont effectivement, je pense, vraiment toute leur place dans la science-fiction aussi. Ça existe hein, quand même. Là, pour le coup, les États-Unis sont très très en avance sur nous. Il y a des choses absolument extraordinaires qui sont faites aux États-Unis dans tous les corps de métier. Hein. Il y a vraiment des choses. J'ai vu il n'y a pas très longtemps des vitraux qui ont été fabriqués par un artisan américain, complètement science-fiction, qui sont absolument exceptionnels. La France est pas très en avance sur le sujet. Donc il y a encore beaucoup de choses à faire, à mon avis. Voilà, on pourrait tout à fait rapprocher beaucoup d'artistes, d'artisans pour créer des choses. La difficulté, c'est toujours pareil, c'est qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui mécène, qui commande derrière. Parce que voilà, là, moi, je ne pourrais pas refaire un coffret comme ça avant un petit moment, puisque tout a été financé au départ par moi-même. Et c'est un très gros investissement. Donc voilà, je l'ai fait une fois. Je ne pourrais pas le refaire dans ces conditions une autre fois. Et les autres artisans, c'est pareil. Donc avis aux mécènes, quels qu'ils soient, quelle que soit leur taille, leur budget.
Alors une dernière petite question, enfin de ma part en tous les cas, c'est en fonction des différents objets, peut-être qu'il va y avoir effectivement des intéressés, à savoir, ouais, je rêverais d'avoir cette paire de ciseaux, je rêverais d'avoir la même pipe et autres. Est-ce qu'ils peuvent te contacter sur le réseau, par exemple, pour essayer d'avoir un lien, enfin de créer quelque chose
Bien sûr, oui, bien sûr. Il y a certains artisans qui m'ont dit qu'ils souhaitaient que ça reste une pièce unique, le ciselier, par exemple. Donc vous ne pourrez pas avoir de copie de ce ciseau-là, de ces ciseaux-là. Par contre, voilà, il a un imaginaire débordant qui pourrait tout à fait retravailler. Et de fait, oui, absolument. Vous pouvez tout à fait me contacter et je peux faire le lien entre les artisans et les personnes qui seraient intéressées sans aucun problème.
Plus de questions ? Eh bien, moi, je vais te remercier de nous avoir, donner envie de monter le niveau de cette participation excellente. Et je vous invite à aller flâner autour du coffre et à vous régaler les yeux.
Et je suis là les 4 jours, donc n'hésitez pas à venir me poser des questions s'il y en a qui viennent par la suite.
Merci bien.
Merci. Bon appétit.